Voilà, je te laisse la parole.
Merci Isabelle et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et merci pour votre accueil. C'est une joie pour moi d'ouvrir la Bible avec vous maintenant. Et on va se poser une question ce matin, alors que tout le monde se pose la question, quel sera l'avenir de notre année 2021, comment va se passer cette année? Je vous propose qu'on se pose la question, une question encore plus grande, quel sera l'avenir de l'humanité? Quel futur pour l'humanité? Quel espoir pouvons-nous avoir en ce qui concerne le futur de l'humanité? Et c'est intéressant parce que cette question fait partie des préoccupations de la Bible dès les premières pages de la Bible. Et je vous propose que nous lisions ensemble un passage de la Genèse, un passage des premières pages de la Bible. En église à Grenoble, on étudie le livre de la Genèse en ce moment et on a beaucoup de joie à découvrir et redécouvrir les richesses de ce livre. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en lire une petite partie de ce merveilleux livre avec vous ce matin. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui en ont, en Genèse chapitre 5. Donc le premier livre de la Bible, chapitre 5, et on va lire tout le chapitre 5 en fait, et même le début du chapitre 6. Alors accrochez-vous, et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc c'est parti, Genèse 5, 1 à 6, 8. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Enoch eut pour fils Kenan. Enoch vécut 815 ans après la naissance de Kenan, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kenan eut pour fils Mahalalel. Kenan vécut 840 ans après la naissance de Mahalalel, et il eut des fils et des filles. Kenan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalalel eut pour fils Jéred. Mahalalel vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et il eut des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methuselah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Methuselah eut pour fils Lémec. Methuselah vécut 782 ans après la naissance de Lémec et eut des fils et des filles. Methuselah vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Fin du chapitre 5, début du chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il en eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Verset 8. « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Jusqu'ici notre lecture. Alors, rappelez-vous, début du mois de janvier, nous sommes le 5 janvier 2021. Vous avez pris la décision, comme presque chaque année, de lire un chapitre de la Bible chaque matin, avant de partir à l'école ou au travail. L'année dernière, vous n'aviez pas réussi à le faire jusqu'à la fin de l'année. Cette année, vous êtes motivé, vous êtes gonflé à bloc, vous recommencez tout à zéro, vous avez pris la bonne résolution de lire ce chapitre par jour et vous reprenez la lecture au début de la Genèse. 1er janvier, vous lisez le chapitre 1, 2 janvier, vous lisez le chapitre 2, le 3 janvier, vous lisez le chapitre 4, tout va bien. Et mardi 5 janvier 2021, il est 6h45 du matin, votre café est prêt, vous êtes assis dans votre cuisine, encore un peu endormi, vous ouvrez votre Bible au chapitre 5 de la Genèse et vous êtes confronté, comme on l'a été maintenant, à un chapitre entier de généalogie. Que faire? Le dilemme est là. Soit vous lisez le chapitre en entier parce que quand même on va pas mettre fin à une si bonne résolution dès le 5 janvier. Soit vous êtes tenté de passer directement au chapitre suivant. Qu'est-ce qu'une généalogie vient faire ici? Pourquoi passer autant de temps à détailler le nom et l'âge de ces gens? Quoi retenir de cette généalogie? Alors je suis désolé, mais on va devoir commencer par faire un peu de méthodologie, un peu de littérature, pour nous aider à comprendre cette généalogie. Et pour nous aider, je vais me servir d'un ouvrage de littérature fameux, et qui parle encore d'oiseaux, désolé, mais d'oies cette fois. C'est Loi qui jouait de la trompette. Désolé, j'avais que ça dans ma bibliothèque. Donc je vous le lis, ne vous inquiétez pas, c'est rapide. Alors, ouais, on voit pas très bien. Loi qui jouait de la trompette. Il était une fois une oie qui jouait super bien de la trompette. Quand elle trouvait une boîte, elle jouait super bien de la trompette. Quand elle trouvait une cuillère, elle jouait super bien de la trompette. Quand elle trouvait une chaussure, elle jouait super bien de la trompette. Quand elle trouvait une fleur, elle jouait super bien de la trompette. Et quand elle trouvait une trompette, elle jouait super bien de la guitare. Alors, quelle est la structure littéraire de ce chef-d'œuvre de la littérature française? Eh bien, elle est simple. Il est composé de répétitions et d'irrégularité. On a ce refrain, elle jouait super bien de la trompette. Et on a à la fin cette irrégularité, elle jouait super bien de la guitare. Répétition, irrégularité. Et ce sont les deux composantes qui font tout l'intérêt de cette lecture. Et en fait, ce sont aussi les deux composantes qui font tout l'intérêt de la lecture de Genèse chapitre 5. Cette généalogie est faite de répétitions et d'irrégularités. Quelles sont-elles? Eh bien, commençons par la répétition la plus présente. La chose qui frappe le plus quand on lit ce texte, c'est ce terrible refrain. Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. C'est répété 8 fois dans notre texte. À chaque phrase, c'est une véritable hécatombe, ce chapitre. Alors, vous allez peut-être me dire, quel est le problème? Qui ne meurt pas? Et regardons la durée totale de leur vie. Je pense que Ils n'ont pas à se plaindre, n'est-ce pas? Ils ont vécu une bonne vie. Et ben, en fait, si on ne se rend pas compte du problème de cette répétition, c'est qu'on a oublié que juste deux chapitres plus tôt, l'auteur de la Genèse nous a montré que, d'une manière extrêmement claire et grave, que la mort est une anomalie. Dieu dit à Adam et Ève, après qu'ils aient péché dans le jardin d'Éden, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Et ils sont ensuite chassés du jardin pour qu'ils ne puissent plus manger de l'arbre de vie. Alors, quand on lit cette série de morts, cette hécatombe, on doit se dire qu'en fait, aucune de ces morts ne devait se produire. Alors, quand on lit ce chapitre le matin avant d'aller au travail, ça nous paraît peut-être un peu banal, mais il y a des situations où on se rend compte de l'anormalité de ce qui est en train de se passer dans ce chapitre. C'est surtout quand on est confronté de près à la mort, que lors du décès d'un proche, par exemple, qu'on prend conscience de la gravité, de l'anormalité de la situation. Alors, là, on lit cette généalogie avec détachement, mais en fait, chacune de ces morts représente un drame. Et si vous avez téléchargé l'application Tous Anti-Covid sur votre téléphone, ouvrez-la. Vous allez lire un nombre de cas de Covid-19, 20 000, 23 000 peut-être. Quand on regarde les infos tous les soirs, on a un nombre de décès du Covid-19 qui arrive chaque jour. Et aujourd'hui, on est peut-être habitué. Ça fait plus d'un an qu'on y est confronté. Mais si on réfléchit quelques secondes, la situation est folle. Elle est complètement anormale. Alors imaginez que la pandémie dure plusieurs années. Pour les enfants qui sont nés en 2020, en 2021, rien ne paraît anormal d'entendre ces nouveaux cas, de voir des gens porter des masques, d'entendre un nombre de morts du Covid chaque jour. C'est exactement pareil avec cette histoire. Depuis des milliers d'années, l'homme est confronté à la mort, on est presque habitué, on ne voit pas le problème. Mais en fait, la mort fait partie des éléments qui nous montrent que le monde ne tourne vraiment pas comme il faut. La mort fait partie des éléments qui nous montrent qu'il y a un problème. Si on lit Genèse 5 comme une série d'événements banals, c'est qu'on n'a pas vraiment compris à quel point ce qui s'est passé en Genèse 3 avec la chute était grave. Mais rappelez-vous comment on lit une généalogie. Répétition et irrégularité. Et quand on parle de mort, il y a une irrégularité dans ce chapitre qui doit nous sauter aux yeux. Je pense que vous l'avez vu. Et on va passer maintenant aux trois irrégularités de ce passage. Donc la première, verset 21 du chapitre 5, à l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methuselah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah. Il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. L'histoire d'Enoch est là pour nous rappeler que le destin initial des hommes, qui auraient tous dû marcher avec Dieu, n'est pas la mort. Et l'histoire d'Enoch est là comme un indice, comme un avant-goût de ce qui attend tous ceux qui, comme lui, vont marcher avec Dieu. C'est un espoir pour nous que la mort n'est pas le seul avenir possible de l'humanité. La vie est aussi possible. Et repensez également aux lecteurs originaux de la Genèse, ce peuple hébreu qui a fui l'Égypte, qui se retrouve dans un désert, qui désespère si souvent au point de croire qu'ils vont tous mourir dans le désert, ils peuvent voir en Enoch une lueur d'espoir de ce qui les attend en tant que peuple s'ils marchent avec Dieu. Deuxième irrégularité qui arrive en fait avant dans le texte, c'est Seth. Regardez ce qui se passe avec Seth. C'est le verset 3, 2 et 3. L'auteur nous précise que Seth est fait à l'image de son père, Adam. Pourquoi une telle précision? C'est pour nous aider à voir que dans la vie qui jaillit à chaque génération, la progression de l'histoire va les conduire à un descendant, un enfant, promis par Dieu. Pareil, deux chapitres avant. En Genèse 3, verset 15, Dieu promet à la femme qu'un descendant viendra pour écraser la tête du serpent. c'est-à-dire détruire, anéantir le diable, le mal, toutes les malédictions associées à son influence, la mort, le péché, etc. Et ici, Seth est présenté comme le représentant de la lignée de ceux qui sont faits à l'image de Dieu, lui-même fait, à l'image d'Adam, lui-même fait à l'image de Dieu. Du coup, à chaque naissance de cette généalogie, on se demande, est-ce que c'est le sauveur? Est-ce que c'est celui-ci qui va écraser la tête du serpent? Et voilà une des raisons pour lesquelles les généalogies sont si importantes dans le récit de la Genèse. Et si vous vous suivez, si vous lisez la suite de la Genèse, les généalogies ont une place très importante. Les généalogies nous font attendre l'accomplissement d'une promesse magnifique. Celle qu'un jour, un des descendants d'Adam, de Seth, de Noé, d'Abraham, va naître et va écraser la tête du serpent. Elles enracinent l'histoire des lecteurs dans la grande histoire de la rédemption de Dieu. Et la dernière irrégularité maintenant qu'on peut voir dans cette généalogie, c'est celle de Noé. Son père Lémec l'appelle du nom de Noé, qui veut dire repos, consolation, avec cet espoir que peut-être ce sera lui qui mettra fin aux malédictions de Dieu, en particulier celle du travail pénible. Mais si on lit la suite de l'histoire, Genèse chapitre 9 en particulier, on voit que Noé n'est pas le descendant promis, celui qu'on attend pour sauver l'humanité. Noé va en effet démarrer une nouvelle humanité après la sortie de l'arche, mais cette humanité sera de nature semblable à celle d'Adam. Et on voit que Noé sera pécheur comme Adam. Donc en résumé, qu'est-ce que nous apprend cette généalogie? Eh bien, premièrement, que les conséquences de la chute s'étendent à toute l'humanité. L'humanité déchue, pécheresse, est en train de remplir la terre. La mort est omniprésente. Le travail est pénible pour tout le monde. Deuxièmement, que la vie jaillit à chaque génération et ça nous fait garder espoir qu'un jour, un des descendants de cette généalogie mettra fin à cette prolifération du mal dans l'humanité. Et troisièmement, cette généalogie nous apprend que la mort n'est pas la seule destinée possible, mais que marcher avec Dieu change quelque chose. Et on verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc, humanité, quel futur? Immortel? Ben, pas vraiment. La mort est bel et bien présente. Même si on ne veut pas y penser, même si on veut fermer les yeux sur cette réalité. Et on peut se poser la question, comment est-ce qu'on parle de la mort à notre entourage? Qu'est-ce que vous répondez face à un de vos parents, ou un de vos grands-parents, ou un de vos amis, qui vous dit qu'il en a marre de la vie et qu'il aimerait partir? Qu'est-ce que vous répondez face à ceux qui ont vécu des drames familiaux, des enfants qui partent si vite, des fausses couches? C'est difficile de parler de la mort. La mort, c'est tabou, ça met les gens mal à l'aise. Et on est mal à l'aise quand on nous parle de la mort. Et je dois vous avouer que j'ai personnellement pas beaucoup été confronté à la mort. J'ai jamais dû dire au revoir à un membre de ma famille. J'ai encore tous mes grands-parents qui sont en vie. Et du coup, je saurais moi-même pas vraiment quoi répondre à ces questions que je vous pose. Je suis mal à l'aise avec la mort et je sais pas comment bien en parler. Pourtant, on y sera tous confrontés un jour ou l'autre. Et cette généalogie de Genèse 5 nous donne une vue réaliste de cette réalité. Elle nous fait voir la mort en face, avec tout ce qu'elle a d'anormal. Et en même temps, elle nous donne une alternative, un autre chemin, celui de la vie. Dès le 5e chapitre de la Bible, nous devons être clairs sur ce fait. La mort est bel et bien présente. Il faut en parler. Mais dès le 5e chapitre de la Bible, c'est tellement encourageant de voir que ceux qui marchent avec Dieu, Dieu ne va pas les laisser dans la mort. Dieu va les prendre avec lui. Oui, la mort est terrible, c'est une anomalie, mais c'est pas un tabou. Puisque Dieu veut l'aborder avec nous et nous trouver une solution. Parler de la mort ce matin, c'est dur, mais c'est aussi une formidable opportunité de parler du Dieu bon qui veut donner une solution à la mort. Alors c'est dur pour moi, j'imagine que c'est pas facile pour vous aussi, mais si la Bible le fait dès les premières pages, c'est que c'est important. Et après avoir lu ce texte en église il y a quelques semaines, en petit groupe de quartier, une dame d'une cinquantaine d'années nous a partagé son désir, enfin sa prise de conscience que elle n'était pas prête à laisser partir sa maman qui commençait à être âgée. Si elle était amenée à mourir, elle aurait regretté de ne pas lui avoir dit certaines choses, de ne pas lui avoir expliqué certaines choses ou demandé certaines choses. Et ça l'a encouragée à faire le point avec sa maman et à lui présenter aussi ce Dieu bon qui donne une alternative à ce qui se passe après la mort. Et c'était très encourageant de voir à quel point elle a eu le courage d'aller le lendemain voir sa maman, lui écrire une lettre et en parler avec elle. Mais parfois, une autre question se pose. Peut-être que le fait de mourir n'est pas une si mauvaise chose en soi, quand on regarde le degré de corruption de l'homme. Et c'est un constat que certains d'entre vous ont peut-être déjà fait. Le monde tourne tellement mal. Je souffre tellement de mon péché. Je souffre tellement du péché des autres. Je souffre tellement de la maladie, de la vieillesse, que j'ai envie de mourir. Alors, regardons un peu la deuxième partie de notre passage. Vous l'avez peut-être remarqué, mais l'auteur ouvre une sorte de parenthèse dans ce début de Genèse 6. Et la parenthèse, en fait, va se fermer à la fin de Genèse 9, où il nous est dit « Noé vécut 350 ans après le déluge, il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. » Donc, on a une parenthèse qui s'ouvre. Et le début de cette parenthèse fait partie de ces textes un peu obscurs de la Bible. En fait, c'est obscur pour nous avec ces histoires de géants. Mais c'est certain que les destinataires premiers de ce livre, le peuple hébreu dans le désert, savaient exactement de quoi il s'agissait. Mais alors, quoi comprendre de ce passage? C'est peut-être une question que vous vous êtes toujours posée en lisant ce passage. Ça paraît incompréhensible, ces histoires de fils de Dieu, de filles des hommes, de géants. Quoi comprendre? Quoi retenir? Eh ben, avant de vous le dire, j'ai un aveu personnel à vous faire. J'ai beaucoup réfléchi, et c'est dur à dire, mais Caleb, notre fils, qui a eu 9 mois début janvier, eh bien, je regrette sa naissance. Je regrette de l'avoir pour fils. Et alors même que je ne pense absolument pas ce que je viens de dire, eh ben c'est dur de le dire. Mais imaginez ce que doit faire un enfant pour que son père puisse un jour dire ce que je viens de dire. Imaginez le degré de déshonneur, de méchanceté et de mal que doit faire un enfant pour qu'un jour son père puisse regretter de l'avoir pour fils. Mais lisons le verset 6 du chapitre 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il en eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Le constat est encore plus terrible en ce qui concerne Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement le Père de l'humanité, c'est le concepteur de l'humanité, c'est son créateur, son architecte. Et regardez le contraste entre le début et la fin de ce qu'on a lu ce matin, c'est frappant. Verset 2 du chapitre 5, non, verset 1, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Et verset 6 du chapitre 6, « Je regrette de les avoir faits. » N'est-ce pas terrible? N'est-ce pas terrible que l'humanité en soit arrivée à ce point que Dieu exprime du regret de l'avoir faite? Que l'humanité créée à l'image de Dieu est tellement déformée, dénaturée, tordue cette image au point que Dieu ne puisse plus voir quelque chose de bon en l'homme. Mais alors qu'a pu bien faire cette humanité pour en arriver là? Eh bien, les versets 1 à 3 nous donnent la réponse. Ces versets nous parlent de fils de Dieu qui ont pris pour femme des filles des hommes. C'est un passage pas évident, il y a de multiples interprétations sur ce passage. Et si ça vous intéresse, je suis sûr que votre pasteur se fera une joie de vous en parler, de vous expliquer ce passage une autre fois. En tout cas, c'est pas le plus important et je vais même pas vous donner mon avis. Ce qu'on va faire plutôt, c'est voir ce que dit le texte. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Les fils de Dieu, qui sont-ils? Ça n'a pas trop d'importance pour le moment. Virent que les filles des hommes étaient belles, littéralement bonnes, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et regardez, mince, tant pis, regardez Genèse chapitre 3 verset 6, si vous voulez tourner dans votre Bible, Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Les fils de Dieu. Ah, super. On va juste afficher, ce sera plus facile. Voilà. Bon, tant pis. Les hommes de Dieu virent que les filles de Dieu étaient belles et ils en prirent pour femme. Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon, elle en prit de son fruit et en mangea. Qu'est-ce que veut nous faire comprendre l'auteur de la Genèse? Eh bien que ce qu'il se passe en Genèse 6, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé en Genèse 3. On a une réplique avec toute l'humanité de la chute d'Adam et Ève. Voilà, on voit les passages parallèles soulignés. Donc ce texte montre que le mal prolifère, que les hommes, les êtres humains, se tournent constamment et uniquement vers le mal. On a les mêmes mots que ceux de la chute qui sont employés, voir, bon, prendre. Adam et Ève ne sont pas les seuls à commettre cet acte de rébellion, cet acte de péché. C'est l'humanité entière qui se retrouve à tomber comme eux. Et deuxième chose que nous apprend ce passage, c'est que l'humanité dont il est question ici, suite à ces unions, eh bien, c'est bien une humanité humaine, ce sont les hommes. Dieu fait le constat que ce sont les hommes qui commettent beaucoup de mal. Donc, que des êtres célestes soient impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces événements ne change pas vraiment la conclusion de l'auteur. L'homme est coupable d'un grand péché. Il est corrompu, il est rempli par le mal. Alors, quoi retenir de ce passage? Eh bien, qu'aucun espoir ne peut être mis en l'homme en ce qui concerne le bien. Son cœur se porte uniquement et constamment vers le mal. Et l'homme ne mérite qu'une chose, le jugement de Dieu, l'extermination. Est-ce que vous avez un peu d'espoir en l'homme pour qu'il trouve une solution par lui-même à la mort, à la souffrance, aux injustices, aux meurtres, aux guerres, aux conflits, à l'orgueil, à la médisance au travail, à la jalousie dans l'église? Si c'est le cas, vous serez vite déçu. Est-ce que vous pensez que l'homme peut se tourner vers Dieu par lui-même, se rendre compte qu'il a besoin de Dieu, qu'il faut arrêter de faire le mal? Pourtant, ce passage nous dit que son cœur se tourne uniquement et constamment vers le mal. Le cœur, le siège des désirs, la source de tout ce que nous ressentons, pensons, faisons, est pollué, sali. Et que sort-il d'une source polluée? Eh bien, aucune eau potable. rien de bon. La mort, mais rien d'autre. Le constat de ce texte est terrible. Ce que mérite l'humanité, c'est le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu, c'est la mort. Et ce texte nous invite à faire le même constat que Dieu concernant l'humanité. Est-ce qu'on a le même regard que Dieu sur l'étendue du péché et de la corruption du monde? Et je dois vous confesser que bien souvent ce n'est pas le cas pour moi. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, je serais tellement dégoûté par le péché, dégoûté par tout ce que le monde fait qui déshonore Dieu et son nom, dégoûté par tout ce qui attire mon cœur et qui me détourne de Dieu, que je serais plus enclin à identifier le péché, à m'opposer avec force au péché, à mettre à mort le péché et à marcher avec Dieu. Et je reconnais que j'ai du travail à faire dans ce domaine encore. Et c'est pas toujours le cas pour moi aussi, parce que parfois je crois qu'au fond de moi, je vais trouver les ressources nécessaires, un bon style de vie, une bonne gestion de mes relations, des bonnes actions, une bonne communication avec ceux qui m'entourent. Je peux être quelqu'un de bien. Mais non, en moi, il n'y a pas les ressources. J'ai le même cœur que ceux de ces hommes et de ces femmes de Genèse 6. Et je dois le reconnaître. Et si vous doutez de ça pour vous-même, eh bien, posez-vous la question. Est-ce que vous arrivez à être ce que vous essayez d'être par vous-même? Est-ce que ça marche vraiment? Mais alors, quel espoir? Quel espoir pour l'humanité au milieu de ce constat si fataliste que nous faisons? Eh bien, le texte nous donne de bonnes raisons de garder espoir. On a vu que ceux qui marchent avec Dieu, celui qui marche avec Dieu, Enoch, trouve le salut et échappe à la mort. Et regardez le verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Au milieu d'une humanité constamment tournée vers le mal, il existe un homme qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Lui aussi, comme Enoch, était un homme qui marchait avec Dieu. Et c'est lui, avec sa famille, que Dieu va mettre à part pour échapper à son jugement, comme nous le raconte la suite de cette histoire. Et regardez ce détail aussi du verset 3. Dieu fait grâce de 120 ans à l'homme, alors que l'humanité mérite d'être foudroyée sur place. Dieu fait grâce et donne 120 ans à l'homme pour se repentir, pour changer d'attitude, pour reconnaître son péché et se tourner vers Dieu qui seul peut les sauver. Donc, quel espoir ? Eh bien, c'est en marchant avec Dieu qu'on échappe au jugement et à la mort. C'est en trouvant grâce aux yeux de Dieu que notre avenir ne sera pas le même que celui qui nous était destiné initialement. Et c'est un merveilleux espoir. Quel lien avec nous alors? Eh bien, la Bible dit que nous sommes dans la même situation que Genèse chapitre 6. La mort nous attend et le jugement de Dieu nous attend. 2 Pierre 3, verset 7. Par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Nous sommes exactement dans la même situation qu'en Genèse 6. Sauf que ce qui nous attend, ce n'est pas un déluge, mais c'est le jour du jugement. Alors, comment échapper au jugement et à la mort, puisque nos cœurs se tournent uniquement et constamment vers le mal? Bien, on a vu dans ce texte qu'il faut marcher avec Dieu, mais comment marcher avec Dieu? Eh bien, si notre cœur ne peut que faire le mal, il nous faut un nouveau cœur. Ézéchiel 36, verset 25, Je vous aspergerai d'eau pure, vous serez purifiés. C'est Dieu qui parle à son peuple. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Je retirerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Tout comme Adam a transmis de génération en génération le péché et la mort, nous avons besoin d'un nouvel Adam qui démarre une nouvelle humanité avec un cœur nouveau. Et cet homme, c'est Jésus. Le Nouveau Testament nous présente Jésus comme le descendant promis, celui qui va nous donner un nouveau cœur et celui qui va nous délivrer de la mort. Alors comment est-ce qu'on échappe au jugement et la mort grâce à Jésus? Eh bien, alors qu'on ne peut pas marcher avec Dieu par nous-mêmes à cause de notre cœur, Jésus, lui, a marché avec Dieu parfaitement. Il ne mérite donc pas la mort, contrairement à nous. Et il est celui qui a subi le jugement de Dieu que nous méritions. Tout ce qui nous était destiné, Jésus l'a pris à la croix. Et en nous associant à son œuvre et à sa personne, en acceptant que c'est pour nous que Jésus a fait cela, on entre dans la catégorie de ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu, comme Noé. Et on se met à marcher avec lui, comme Enoch. Parce que lorsque le jugement viendra, Dieu ne verra pas Antoine qui a marché bien imparfaitement, mais il verra Jésus qui a marché avec Dieu. Et j'aimerais juste finir avec une anecdote personnelle à ce sujet. C'était il y a quelques années, j'avais 17 ans et on était parti quelques jours avec un ami pour faire du ski de randonnée. Lui n'en avait jamais fait, donc on fait pas un itinéraire trop difficile. Et le premier jour, tout se passe bien. Je lui apprends les gestes de secours de victime d'avalanche. Je lui apprends est-ce qu'on utilise le matériel de ski de randonnée. On dort dans un refuge et le lendemain, on part tôt pour tenter de rejoindre un petit sommet. La météo n'est pas très bonne, alors on décide de prendre un itinéraire plutôt sécuritaire. Et là, juste après que nous ayons fait une pause pour regarder la carte, je pars et tout d'un coup, j'entends comme un bruit de tonnerre. Et je sens le sol qui commence à bouger sous mes skis. Et ça y est, je comprends ce qui m'arrive. Je viens de déclencher une avalanche. Je roule dans la neige, impossible de maîtriser quoi que ce soit. Je suis tordu dans tous les sens. Je sens de la neige qui rentre dans mes poumons. Et quand tout s'arrête, tout est noir. Je suis tordu dans tous les sens. Et il est impossible pour moi de bouger quoi que ce soit, ne serait-ce que le petit doigt. Et quand j'ai compris ce qui était en train de m'arriver, je savais qu'il me restait environ 15 minutes de vie. Je ne savais pas si mon ami avait été emporté avec moi. Je ne savais pas s'il allait réussir à me trouver. Et donc j'ai ressenti beaucoup de tristesse pour ma famille, pour lui qui était en train de me chercher peut-être. J'ai culpabilisé de faire subir le fait d'enterrer un ami ou un fils à mon entourage. Mais alors que j'étais totalement impuissant, alors que mon espérance de vie était au plus bas, alors que je n'attendais plus que la mort, eh bien, croyez-moi ou non, mais j'étais rempli d'une joie et d'une paix inexplicable, comme jamais je ne l'avais été. Je savais qu'à ce moment-là, que la mort, c'était pas la seule option possible. C'était pas la seule destinée. Je savais que tout mon péché et le jugement que je méritais avait été porté une fois pour toutes par Jésus à la croix. Et je savais que ça allait être le moment pour moi de le rejoindre, de pouvoir enfin voir de mes yeux, contempler, toucher de mes mains mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Alors que ce moment aurait dû être caractérisé par l'angoisse de la mort et du jugement, il a été rempli d'une joie intérieure profonde que ce en quoi j'avais cru par la foi, l'espérance que j'avais, allait se manifester pleinement et s'accomplir. Et je peux vous dire, et je suis sûr que si vous demandez aux chrétiens de cette salle qui ont déjà frôlé la mort et qui s'approchent de la mort, peut-être à cause de l'âge qui avance ou de la maladie, que cette perspective sur la mort et le jugement de Dieu, cette paix que cette perspective nous procure, n'a aucun prix. Alors voilà, en Jésus, c'est une nouvelle généalogie qui commence, celle des enfants de Dieu. Une généalogie pleine d'Enoch et pleine de Noé, une généalogie pleine de femmes et d'hommes qui marchent avec Dieu et qui échappent au jugement et à la mort. Et bonne nouvelle, on ne rentre pas dans cette généalogie par le sang, mais par la foi. Donc c'est possible à tout le monde qui veut bien y entrer. Et nous sommes dans ce temps de patience où Dieu nous invite encore à y rentrer. Et pour ceux qui sont déjà rentrés, nous sommes dans ce temps de joie et nous voulons communiquer autour de nous cette joie que nous avons trouvé notre refuge en Dieu. Nous avons trouvé notre abri dans le Tout-Puissant qui nous délivre de la peste et du fléau, qui est cette poule qui nous abrite sous ses ailes et qui nous fera échapper à la mort et au jugement final. Alors merci Seigneur pour ce beau cadeau. Et merci à vous pour votre écoute.